Écologie de l'enfance, le retour de la confiance avec André Stern.
Bonsoir, et ben moi je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir. J'ai une tendance à préférer cette position. Est-ce que vous m'entendez suffisamment et vous me voyez suffisamment ? Parce que je ne veux pas être assis, mais donc si je suis debout derrière les tables jaunes, je serai moins proche de vous. Bonsoir, merci d'être là. Je vais me présenter brièvement avant de vous parler de ce qui, moi, me met debout actuellement, qui est l'enfance. Pour me présenter, je vais employer une toute petite phrase que j'avais développée quand j'avais 4 ans, parce que j'avais remarqué que les gens posaient toujours les mêmes questions. Et puis les enfants sont très pratiques dans leur vision et leur organisation du monde. Et je m'étais dit que si je répondais à toutes ces questions dès la présentation, on gagnerait beaucoup de temps. Donc j'avais développé cette petite phrase et qui était la suivante. Bonsoir, je m'appelle André, je suis un garçon. Alors c'était très important de préciser que je suis un garçon. Non pas que j'y attachais une importance particulière, parce que l'enfant en réalité ne connaît pas vraiment ces différences-là, il n'en fait pas en réalité, il n'y met pas de valeur, il n'y met pas... Oui, ça arrive aussi à mon fils, Antonin, que je me permets de vous présenter dès à présent. Antonin, mon fils de 6 ans, qui est mon portrait craché, il est blond, il a la peau blanche et les yeux clairs. Et Antonin aussi, comme il a les cheveux longs, mais ce n'est pas la seule raison, puisque même quand il a une cagoule, beaucoup de personnes se trompent. Si je ne savais pas, je me tromperais aussi très certainement. Antonin aussi est souvent pris pour une fille et dit « je suis un garçon ». Et quand on dit ça, ce n'est pas tellement parce que justement on s'est fortement identifié, mais c'est parce qu'on veut éviter à l'interlocuteur le choc apparemment terrible que ça lui cause de se rendre compte qu'il s'est trompé. Voilà, ça, par exemple, bonjour mademoiselle, et il répond non, je suis un garçon. Oh, je suis désolé. Et donc, voilà, moi aussi ça me fait rire. Et donc, pour éviter ça et éviter ce choc, la précision dès l'abord, je répète, bonjour, bonsoir, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans. Je ne mange pas de bonbons parce que, autre injonction paradoxale, il y avait dans mon enfance parisienne, dans chaque magasin, il y avait une sorte de coupelle avec des bonbons qu'on proposait aux enfants, tandis que les enfants recevaient de leurs parents une indication très très précise qui était de ne jamais accepter la moindre sucrerie de la part des étrangers. Donc, je récapitule une dernière fois. Bonsoir, je m'appelle André, je suis un garçon. J'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. Et la dernière partie de cette phrase provoquait une certaine agitation. Et c'est toujours plus ou moins le cas de nos jours. Mais parce que pour me présenter, je peux l'utiliser, cette phrase de nos jours, à nouveau, parce que peu de choses ont changé. Je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon, je suis toujours un enfant de 45 ans, mais toujours un enfant. Je ne mange toujours pas de bonbons, entre autres choses que je ne mange pas. Et je ne suis jamais allé à l'école. Ce qui fait de moi, dans notre paysage éducatif, une exception. Et c'est quand même particulièrement étonnant pour moi, ça l'a toujours été et ça le devient de plus en plus. C'est quand même particulièrement étonnant d'être une exception dans notre paysage éducatif actuel, alors que ce que j'ai vécu est quand même ce qui peut se vivre de plus banal, de plus naturel. Ce qui m'est arrivé, c'est exactement ce qui arrive à tout enfant à partir du moment où nous arrêtons de partir d'une idée, d'une théorie, d'une méthode, d'une hypothèse, d'un concept. En bref, quand on arrête de partir de l'adulte et qu'on se met à partir de l'enfant, il se passe ce qui m'est arrivé. Autrement dit, je suis un enfant des plus banals et cette banalité me tient énormément à cœur et c'est justement à cause de cette banalité que je me suis pris de ce désir d'en parler. Une dernière métaphore pour vous dire à quel point je suis banal. Si vous prenez un noyau de mangue et que vous le trempez dans l'eau et que vous attendez un certain nombre de jours, au bout d'un certain temps vont sortir une tige et quelques racines et personne ici ne va s'écrier « Oh, mais ça c'était un noyau de mangue surdoué !» Ben, parce que c'est dans la nature du noyau de mangue de pousser dès que les conditions adéquates sont réunies. Il en va de même de l'enfant qui ne peut pas ne pas grandir, qui ne peut pas ne pas pousser, qui ne peut pas ne pas apprendre. Et ce, pour une raison toute simple. C'est parce que nous venons au monde équipés d'une impressionnante ribambelle de dispositions spontanées. Autrement dit, notre équipement de série à tous. On est tous équipés, lorsque nous venons au monde, d'un certain nombre de dispositions spontanées dont j'ai envie de vous parler pendant le temps de cette conférence, avant de enfin vous céder la parole. J'ai envie de vous parler de ça parce que c'est notre équipement de base, notre équipement de série à tous. Personne ici n'a été privé de ces dispositions spontanées. Il n'y a pas de handicap qui serait suffisamment fort pour nous en priver. Autrement dit, voilà, c'est notre lot à tous. Et j'ai envie de vous parler de ces dispositions spontanées et puis de deux ou trois autres choses dont je voudrais vous parler. Il y a... Non, je vais vous... Il n'y a pas de chronologie ou de hiérarchie entre ces dispositions spontanées. Il n'y en a pas une qui vient avant les autres, il n'y en a pas une qui apparaît avant les autres, il n'y a pas non plus une qui soit plus importante que les autres. Il y en a beaucoup, je vais vous en présenter quatre dans un certain ordre qui, je tiens à le préciser, aucun rapport avec une quelconque valeur ou une quelconque chronologie. Mais il faut bien que je vous les présente dans un certain ordre. Donc je vais vous en présenter une première, et pour vous la présenter, donc je répète, notre équipement de série à tous, sans aucune exception. Pour vous présenter cette première disposition spontanée, la manière la plus simple de le faire, c'est de vous poser une question. On va le faire pour une fois. Dans ce sens-là, c'est moi qui vous pose une question. Quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille ? Alors, j'entends que le premier rang pour cause de salon, mais j'ai entendu tout le monde au premier rang dire jouer. Donc, j'imagine que c'est... Le... Voilà. Mais je sais qu'on en sait la réponse tout de suite. Ça, c'est intéressant. Au tac au tac, vous pouvez tenter, personne ne se trompe là-dessus. Ça veut donc dire que c'est assez profondément inscrit dans notre conscience que c'est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille. Il y a d'ailleurs une deuxième question très parente et très proche de la première qui est la suivante. Et si on ne l'interrompait jamais, l'enfant jouerait tout le temps, toujours, sans interruption. Bon. Donc ça aussi, on le sait, c'est intéressant, vous voyez, dès qu'on... Alors j'ai une troisième question, et là vous allez voir, contrairement aux deux premières auxquelles on trouve tout de suite la réponse, c'est plus difficile la troisième, c'est alors, puisque nous savons que tous les enfants du monde jouent, et puisque nous savons que si on ne les interrompait jamais, les enfants joueraient toujours, pourquoi donc les interrompons-nous toujours ? Ben parce que, oui ça, c'est de manière, c'est un truc d'adulte de ne pas jouer. Après on dit les enfants vont jouer avec les enfants, non, les enfants vont jouer avec ceux qui jouent. Donc pourquoi les interrompons-nous ? Ben, on ne sait pas vraiment. Si on réfléchit bien, on finit par trouver une réponse qui est plus ou moins celle-ci, c'est qu'on a peur que ça ne suffise pas. Et pourtant, j'ai l'extrême chance de travailler avec des neurobiologistes, notamment le professeur Hütter, qui est en Allemagne, qui travaille en Allemagne, mais qui est mondialement l'un des neuroscientifiques les plus avancés, les plus à la pointe de la recherche et de la connaissance dans ce domaine-là. Il s'avère que les neurosciences nous indiquent que nous sommes tous équipés, donc, en série, du meilleur dispositif d'apprentissage jamais inventé, j'ai nommé le jeu. Il n'y a, pour apprendre, rien de mieux que de jouer. C'est une phrase à écrire en gros sur la porte de tous nos frigidaires. Ou réfrigérateur, si vous préférez. Ça a toujours été un frigo dans mon nom. C'est important parce que, je la répète, il n'y a pour apprendre rien de mieux que de jouer. Ce qui nous amène à nous souvenir de ce qu'était le jeu pour nous dans notre enfance. On était totalement incapable de différencier deux notions et pour cause, qui étaient de jouer et d'apprendre. Et on a pourtant réussi, alors que pour l'enfant, ce sont des synonymes. Jouer et apprendre sont pour l'enfant des synonymes, et nous avons réussi la prouesse, non seulement de séparer ces deux notions inséparables, mais en plus de les positionner à l'extrême inverse sur l'échelle du sérieux. Nous avons d'un côté l'apprentissage, extrêmement sérieux, et d'un autre côté le jeu, pas du tout sérieux. Si j'étais l'apprentissage, je le prendrais plutôt mal, puisque j'ai jamais le droit d'être ludique, sinon je deviens suspect. Et donc, on a réussi ça, alors que pour l'enfant, ce sont des synonymes. Je pense qu'on ne se rend même pas compte de la gravité de cette séparation entre des notions qui ne sont pas séparables. Mais pour se le représenter, il suffit de s'imaginer ce qu'il arrive à un enfant le jour où une personne de référence primaire, donc un adulte, donc un parent en général, ou toute autre personne importante pour l'enfant, lui demande un beau matin d'arrêter de jouer pour se mettre à apprendre. C'est un peu comme si je vous demandais de respirer sans prendre d'air. Alors, au moment où je vous le demande, j'espère que vous pensez que cet idiome demande quelque chose d'absurde et d'infaisable, car c'est absurde et infaisable. J'espère parce que c'est la seule réaction à peu près saine à une injonction aussi absurde. Seulement ça, c'est ce qu'aucun enfant ne fait jamais. Aucun enfant, à aucun moment, ne se permet de remettre en question l'adulte. Aucun enfant, ils ne sont pas faits pour ça. Aucun enfant ne pense que c'est l'adulte qui a un problème. Toujours, l'enfant pense que c'est lui qui a un problème. Et lorsque l'enfant est amené à penser et à croire qu'il a un problème, il s'avère que ça active dans son cerveau les réseaux neuronaux de la douleur. On ne le savait pas, mais maintenant qu'on le sait, peut-être que nous allons rencontrer d'une autre manière, d'une manière nouvelle, l'enfant qui joue. Puisque l'enfant qui joue est un humain en train de se consacrer à la plus sensée des occupations possibles pour nous autres, les humains. L'enfant qui joue. Voilà, je voulais vous avoir présenté cette première disposition parce que regardez, n'est-ce pas formidable ? Un appel incroyable à un incroyable retour de la confiance. Non seulement, on est tous équipés en série, sans exception, du meilleur dispositif d'apprentissage. Et non seulement c'est le meilleur, mais en plus c'est notre préféré. C'est notre occupation préférée si on ne nous la gâchait pas. Tous les enfants du monde jouent, quelles que soient les conditions extérieures, la guerre, la famine, le luxe, tous les maux de notre société. Dès qu'on leur en donne la possibilité, même les enfants très malades, dès qu'on leur en donne la possibilité, ils jouent, on le savait ça. Le jeu est plus fort que tout, le penchant pour le jeu de la part de l'enfant est plus fort que la douleur. Je le vois souvent avec Antonin qui joue avec son avion. Et puis il n'a pas vu une branche ou un caillou, il tombe, il se blesse, il a du sang sur les mains, il a des larmes dans les yeux, il pleure, il ramasse son avion et tout en pleurant. Donc on le sait ça, que c'est plus fort que tout. Et pourtant, nous n'avons cesse d'interrompre l'enfant qui joue pour lui demander de se mettre à apprendre. Ou alors, quand tu auras fini d'apprendre, s'il te reste encore un peu de temps, tu pourras aller jouer. Donc quand tu auras fini de respirer, tu pourras aller prendre un peu d'air. Il y a une autre disposition spontanée dont je voudrais vous parler. Alors je ne suis pas du tout neurobiologiste, j'ai juste la chance de travailler avec ces messieurs qui racontent et expliquent beaucoup de choses dorénavant. Vous aurez remarqué probablement que sur les 10 dernières années, les 8 dernières années, on a fait des découvertes primordiales. C'est tout récent que dorénavant, la science ouvre le couvercle d'une sorte de boîte de Pandore dont le contenu aurait été jusqu'ici plutôt attribué à l'ésotérisme, au New Age. En gros, ça nous dit que tout est relié. Je ne suis pas neurobiologiste, mais je vais vous faire un rapide résumé de ce qu'on a cru concernant le cerveau. Alors, pendant des siècles, on a été sûr que le cerveau était programmé par nos gènes, génétiquement programmé pour être bête ou intelligent, tel était notre destin. Génétiquement programmé, c'est-à-dire que nos gènes décident de notre niveau d'intelligence, qu'on vient donc au monde avec un certain niveau et qu'on y reste fidèle une vie durant. Puisque génétique, on n'avait pas encore découvert l'épigénétique, génétique dit bien inamovible. Donc parents intelligents, enfants intelligents, parents idiots, enfants idiots, génétique veut bien dire aussi héréditaire. Et on a constitué tout un ordre du monde reposant sur cette idée qu'il y a des gens nés bêtes et qu'il y a des gens nés intelligents. Et cet ordre du monde est toujours d'actualité, que nous le voulions ou non, tant qu'on n'aura pas changé certaines choses. J'espère avoir le temps d'en parler ce soir avec vous. Mais voilà qu'il y a un certain nombre d'années, on a fait une découverte renversante qui est venue donner un grand coup de pied dans cette fourmilière. On a découvert que dans le cerveau des jeunes d'aujourd'hui, la zone dédiée au contrôle du pouce est considérablement plus développée dans le cerveau des jeunes de nos jours que dans le cerveau des jeunes d'il y a 50 ans. Et oui, ça provient et ça vient de l'usage intensif du SMS. D'où une conclusion renversante, le cerveau, contrairement à ce qu'on avait cru jusqu'ici, n'est pas programmé par nos gènes, notre cerveau n'est pas génétiquement programmé. Waouh ! Alors, donc, conclusion logique, il se développe selon l'usage qu'on en fait, à la manière d'un muscle. Et ça, c'était une excellente idée. Puisqu'il se développe comme un muscle selon l'usage qu'on en fait, il suffit de développer des programmes de musculation cérébrale et on va tous avoir de très, très gros cerveaux. Donc, à l'époque, les neurobiologistes et les pédagogues travaillaient encore ensemble. C'est plus le cas de nos jours, mais c'était le cas à l'époque. Ils ont donc développé ensemble des programmes de motivation et de stimulation précoce. On a développé ces programmes. En gros, c'était 5 langues à l'école maternelle, sudoku au petit déjeuner, du chinois dans le ventre de la mère par l'intermédiaire de haut-parleurs. Ne riez pas, parce que ça a tout été fait, vraiment. Avec un résultat particulièrement intéressant, ce programme d'entraînement musculaire cérébral, puisque nul. Aucun résultat. Question désespérante pour ceux qui avaient développé ces programmes. Mais puisque ça marche si bien pour l'écriture des SMS, pourquoi ça marche, mais alors pas du tout, pour l'apprentissage des mathématiques? C'est à ce qui manquait, un petit bout de la découverte. Et celle-là, elle est vraiment très récente. Je sais que certains d'entre vous le connaissent, mais les autres, on les reconnaît, c'est ceux qui tombent de leur chaise maintenant. Parce qu'on a découvert que notre cerveau se développe, certes, là où nous l'utilisons, mais si nous l'utilisons avec enthousiasme. Et ce mot-là, c'est le mot du 21e siècle ou du nouveau millénaire. C'est la clé des choses, cet enthousiasme. Et là aussi, je trouve ça faramineux et spectaculaire et merveilleux que la science nous apporte dorénavant la preuve palpable et visible d'une chose que nous savions tous. On savait tous que l'enthousiasme nous donne des ailes. On savait tous que l'enthousiasme nous rend capable de tout. On savait tous que nous ne connaissons aucune limite quand nous sommes en état d'enthousiasme. On sait qu'en état d'enthousiasme, on est, à proprement parler, génial. Ça, on le savait tous, mais maintenant, la neurobiologie nous montre ce qui se passe et nous montre qu'au bout des longs filaments sont sécrétés des cocktails de neurotransmetteurs neuroplastiques qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. C'est d'ailleurs le mot de la neurobiologie, l'engrais du cerveau, c'est l'enthousiasme. C'est intéressant parce que c'est un nouvel appel à un retour de la confiance en l'enfant, donc de la confiance en nous, puisque nous avons tous en nous cet enfant. Et le regard qu'on a porté sur nous, enfant, c'est le regard que nous continuons à porter sur nous-mêmes à l'heure qu'il est. Et donc c'est un tout nouveau regard, parce que regardez, ça veut dire... Non, parce que alors, le cerveau... Un enfant éprouve une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. On a mesuré une tempête d'enthousiasme dans le cerveau d'un enfant. Alors, qui vit avec un enfant jeune, je vois, acquiesce et peut le confirmer. Et donc, on fréquente tous des enfants jeunes un peu avant 3 ans. On sait qu'ils éprouvent une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Disons même qu'un enthousiasme n'est pas encore achevé, que le suivant enchaîne immédiatement, puisque les enfants ne connaissent aucune hiérarchie, ni entre les choses, ni entre les matières, ni entre les métiers. Parce que nous, il faudrait faire un effort. Si je vous le demandais, vous y arriveriez de manière rhétorique à imaginer que tricot et mathématiques sont sur un pied d'égalité. Et pourtant, pour l'enfant, c'est une réalité. Tout comme pour l'enfant, laveur de carreaux est au moins aussi pertinent que astronaute. Et donc, ils ne connaissent pas de hiérarchie entre les métiers et entre les choses. Et du coup, ben, ils les rencontrent et s'enthousiasment. Et donc, ils éprouvent, statistiquement, c'est une grosse étude, une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Donc, une tempête d'engrais cérébral toutes les 2 à 3 minutes. Ça veut dire que le cerveau d'un enfant baigne du matin au soir dans de l'engrais cérébral. On est tous venus au monde équipés du meilleur dispositif d'apprentissage qui soit, le jeu, et on est tous venus au monde équipés d'engrais cérébral portable, l'enthousiasme. Le jeu est notre outil préféré, et dans l'engrais cérébral portable baigne le cerveau de l'enfant de 2 à 3 ans du matin au soir. Si ça, c'est pas un appel à la confiance, c'est une nouvelle manière de rencontrer l'enfant, d'autant que tout à fait... À la marge, j'ai envie de vous poser la question de si vous savez à quelle fréquence nous autres adultes éprouvons la même quantité d'enthousiasme, statistiquement, et c'est une statistique mondiale, qu'un enfant de 2 à 3 ans éprouve toutes les 2 à 3 minutes. Accrochez-vous parce que c'est 2 à 3 fois par an, en moyenne mondiale. Oui, oui, mais justement, c'est une moyenne. Alors moi, quand je vous vois, vous, qui avez l'air de vous enthousiasmer beaucoup plus que 3 fois par an, hein, genre 9 fois par an, ça veut dire que vous avez piqué la part de 2 autres qui, pendant ce temps, ne peuvent pas du tout s'enthousiasmer. Hein. Ça explique plein des problèmes de ce monde. C'est toute votre faute. Sauf que je tiens à vous rassurer et à nous rassurer tous. L'enthousiasme est la seule ressource illimitée sur Terre. Plus on en fait usage, plus il y en a. Et donc, voilà, c'est une disposition spontanée de plus. On est tous venus au monde équipés de ça. Il y en a une troisième. Alors, vous aurez remarqué que ce dont j'ai essayé de commencer à vous parler, ce n'est pas une méthode. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit ou vous gagner à une quelconque cause. Je n'ai rien à vendre. Ce dont je vous parle n'est pas une méthode. Ce dont je vous parle n'est pas un concept. Ce dont je vous parle est tout au plus une attitude. C'est une nouvelle attitude, une nouvelle manière de rencontrer l'enfance. C'est cette fameuse écologie de l'enfance. C'est cette nouvelle manière de rencontrer l'enfance. Cette nouvelle manière nous amène à nous poser de nouvelles questions et puis à nous rendre compte de nouvelles choses. Par exemple, donc, il y a un génie dans chaque enfant. Donc, il y a un génie en chacun d'entre nous qui n'attend qu'une chose, c'est notre enthousiasme pour fleurir. Simplement, pour pouvoir vivre le génie qu'il y a en nous, en chacun d'entre nous, sans aucune exception possible, il va falloir nous libérer de certaines choses. Il va falloir, par exemple, vous en rendez bien compte, nous libérer de ces... j'ose pas prononcer le mot, de hiérarchies qu'il y a, on les a citées précédemment, dans notre monde, entre les métiers, entre les choses et entre les matières. Parce que tant qu'on ne s'est pas libéré de ces hiérarchies, on ne peut pas s'enthousiasmer véritablement avec la franchise, la puissance, l'authenticité, la profondeur et la constance de l'enfant. Parce que si ça se trouve, ce qui vous enthousiasme n'est pas si bien vu que ça socialement. Et donc vous n'osez pas vraiment vous enthousiasmer. Et c'est bien dommage, parce que c'est là qu'est votre génie, votre élément, comme le dirait Sir Ken Robinson. Et donc... il y a un génie en nous qui n'attend qu'une chose, c'est notre enthousiasme. Et donc, il va bien falloir changer d'attitude. Et oui, ça commence par notre attitude face à nos enfants. En gros, quand je dis de changer d'attitude, il me faut une victime, alors ce sera vous. Nous rencontrons tous l'enfant dans un certain positionnement qui est celui-ci. Alors, je sais que vous tous, par empathie, vous avez déjà un torticolis et que vous ne souhaitez qu'une chose, c'est que je prenne au moins un mètre de recul pour libérer cette pauvre dame. Regarde-moi dans les yeux en plus quand je te parle. Ce positionnement-là, que nous le voulions ou non, c'est le nôtre vis-à-vis de l'enfance. Et cette position dont vous aimeriez bien la libérer, c'est la position de l'enfance dans notre monde. Que nous le voulions ou non, et ça, c'est tout de suite une libération. Et on n'est pas fait pour ça. L'enfant n'est pas fait pour ça. L'enfant, il est fait pour ça. Les yeux dans les yeux. L'enfant est fait... Et attention, c'est pas un truc pédagogique, ça. Parce qu'on a fait des trucs et astuces comme ça. On a dit aux parents, aux enseignants, « Descends au niveau de l'enfant ». Alors ça, c'est très condescendant. J'adore ce mot-là parce que ça va du haut vers le bas. N'est-ce pas? De descendre au niveau de l'enfant. Mais si c'est un truc et que dans ta tête et dans ton cœur, tu es toujours perché là-haut, ta position géographique, on n'en a rien à faire. Et donc, ce changement de position face à l'enfant, ça va nous amener à rencontrer l'enfant et l'enfant en nous d'une nouvelle manière. Ça va nous amener à nous poser de nouvelles questions. Quand je dis que ça va nous faire changer de positionnement et d'attitude face à l'enfant, je dis aussi que ça va nous permettre de nous libérer de notre attitude ironique face à l'enfant. Donc, face à l'enfant que nous étions aussi, parce qu'on a forcément subi un regard ironique qu'on ne continuons à pratiquer sur nous et sur les générations d'après. Et je sais que quand je dis que nous vivons dans une société ironique, face à l'enfance, beaucoup d'entre nous pensent, mais oui, mais peut-être pas moi quand même, et je pense qu'il est temps d'y réfléchir. Je vais vous raconter une petite histoire, j'aime beaucoup raconter des histoires, j'espère avoir le temps de vous en raconter certaines ce soir. Une toute petite histoire qui illustre cette ironie face à l'enfance. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 23 ans, donc j'étais plus un enfant, ou en tout cas plus considéré comme tel. J'avais 23 ans et j'ai rencontré l'homme qui allait devenir l'homme de ma vie, qui allait devenir mon maître luthier, qui m'a d'ailleurs dit dès l'abord, « Je peux tout te montrer, je ne peux rien t'apprendre. » On pourrait faire tout un atelier autour de cette phrase-là, mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit pour l'instant, malheureusement. Non, il m'a immédiatement après donné deux planchettes de bois de lutherie. Il faut bien vous dire que le bois de lutherie, c'est un des bois les plus précieux qui existent. C'est du bois qui a été fendu et non scié, qui a séché à l'air libre pendant 50 ans, dont il ne reste qu'un millimètre et demi sur la table d'harmonie d'une guitare, ce qui fait qu'au gramme, ça vaut le même prix que l'or. Donc c'est précieux. Et il m'a donné deux planchettes. Il me les a données et au moment où il me les a données, il ne m'a pas dit « Oh, mais tu sais ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est du bois, c'est ça ? Oh, c'est bien que tu saches ça. Et toi, dis donc, est-ce que tu sais d'où vient le bois ? Il vient de l'arbre, oui ! Ah, oh, c'est bien que tu saches ça. Et dis-moi, toi, est-ce que tu sais où il habite, l'arbre ? Où habite l'arbre ? Oui, il habite dans la forêt avec les autres arbres, c'est bien. Et toi aussi, tu savais qu'il habite dans la forêt? Oh, et toi aussi, tu savais ça? Oh, bah alors j'ai une bonne idée si vous... On va aller tous ensemble dans la forêt enchantée et on va trouver un arbre magique. Et avec cet arbre magique, on va faire une merveilleuse guitare. Vous venez tous? J'avais 23 ans. S'il m'avait parlé comme ça, qu'est-ce que j'aurais pensé? Il me prend pour un idiot. Oui, mais j'ose pas, moi. Seulement, la question sérieuse qu'il y a derrière ça, c'est pourquoi nos enfants devraient-ils tolérer quelque chose que nous considérerions pour nous comme intolérable? Parce que c'est mignon? Qui a dit que c'était mignon? D'abord, il y en a certains qui vous diront, ça se permet de simplifier l'accès à la langue pour les enfants. Ah oui, c'est une simplification? Déjà, apprendre une langue maternelle, c'est la chose la plus difficile. Bonne nouvelle au passage, si vous avez appris une langue maternelle sans enseignement, tout le reste sera pour vous une promenade de santé. Ah oui, il faut un certain temps pour... Ah non, non, mais c'est le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas la franchise de... Que disais-je? Oui. Donc c'est déjà difficile d'apprendre une langue maternelle, mais là, en plus, vous êtes obligé d'en apprendre deux. Ben oui, parce que les enfants ne sont pas idiots, ils nous regardent. Alors ils voient qu'entre nous, nous parlons une certaine langue, et puis avec eux, on en parle une autre. Ça fait deux langues à apprendre quand même. Parce que les objets n'ont pas le même nom, hein, et pas le même son. Chérie, elle est où, sa sucette? Oh, voilà ta tête. Alors quand on parle comme ça aux enfants, la neurobiologie... Parce que quelqu'un a dit que c'était mignon? Non, parce qu'il faudrait quand même savoir que la neurobiologie moderne nous a montré que le pire que nous puissions ressentir, nous autres les humains, c'est la sensation, le sentiment d'exclusion. Être exclu d'un groupe, surtout si on a envie d'y appartenir. C'est ce qui peut nous arriver du point de vue des sensations de pire. Si je t'arrache un ongle, ça va te faire très mal. Si je t'exclus d'un groupe auquel tu as envie d'appartenir, ça va te faire bien plus mal. Les mêmes réseaux neuronaux s'allument. On s'en doutait, maintenant on nous montre ce qui se passe dans les faits. Bien. Alors, les enfants regardent le monde comme une grande équipe dont ils se sentent un équipier, un coéquipier. Ils regardent le monde et leur disposition, c'est d'être comme nous. Leur désir, c'est d'être comme nous, avec nous, un des membres de cette équipe, de partager nos uniformes, nos accessoires, etc. Donc, ils ont envie de faire partie du groupe que nous sommes. Ils ne sont pas idiots, ils ont vu comment on parle entre nous. Donc quand on leur parle comme ça, on leur dit « Tu ne fais pas encore partie du groupe de personnes qui méritent que je leur parle normalement. » Et c'est une exclusion. Et il s'avère que ça fait mal. Vous allez voir, ça va nous amener à peut-être rencontrer l'enfant d'une manière différente. Et donc, quand on aura changé d'attitude, et c'est en cours, complètement, face à l'enfant, et je répète, ce n'est pas une méthode, on sera amené à se poser de nouvelles questions. Des nouvelles questions du type, par exemple, on est tous toujours occupés par une question dès qu'on rencontre un enfant, c'est ah, « comment je pourrais l'éduquer ?» Alors ça, la tentative et le zèle qu'on a tous à vouloir éduquer les enfants est spectaculaire. Les nôtres, ceux des autres, on est toujours en train d'essayer de faire entrer quelque chose dans l'enfant. Et donc, cette question que tout le monde se pose, comment apprendre quelque chose à l'enfant, on pourrait... la réviser et commencer à se poser de nouvelles questions telles que, par exemple, qu'est-ce que moi, je peux apprendre de l'enfant? Dans quel domaine l'enfant est-il un vrai maître? Et là, c'est une autre disposition spontanée. En ce qui concerne l'ouverture du cœur, en ce qui concerne l'ouverture d'esprit, les enfants sont de vrais maîtres. Et ils nous montrent la voie. Ils nous montrent la voie parce qu'ils vont à bras et à corps ouverts vers les autres sans isme. Tels que racisme, sexisme, spécisme, agisme. Ils vont vers les autres à bras et à cœur ouvert sans tenir compte de critères tels que la couleur de peau, la religion, l'environnement socioculturel, l'âge. Les enfants vont vers les autres et il n'est pas nécessaire de leur apprendre la tolérance parce qu'ils ne connaissent pas l'intolérance. Et en cela, ils nous montrent un monde meilleur. Ils nous montrent de quoi serait fait un monde meilleur. Il nous montre la voie vers ce monde. Et savez-vous, ce ne serait pas un chantier gigantesque et épuisant. Il suffirait pour ce monde meilleur que nous ne nous éloignions pas trop de notre état natif. Car dans cet état-là, d'ouverture d'esprit, du cœur, dans cet état de non-intolérance. C'est ainsi que nous sommes tous venus au monde. C'est une disposition spontanée. C'est la troisième que je voulais vous présenter ce soir. Il y en a une quatrième pour finir que je voulais vous présenter. Cette quatrième disposition spontanée est très proche de la troisième. C'est notre disposition spontanée à aller dans le vaste monde, à la rencontre des autres et de leurs différences. On est fait pour ça. Sans cette disposition spontanée, sans ce penchant, sans ce désir d'aller dans le vaste monde, on ne viendrait même pas au monde. Parce que les enfants regardent le monde, je l'ai dit, comme cette grande équipe, ils sont encore profondément connectés à cette conviction que c'est nos différences qui sont le seul facteur possible et fiable d'enrichissement mutuel. Toi et toi et toi et moi, ensemble, de quoi sommes-nous capables dont nous ne serions pas capables seuls ? Ça, c'est l'esprit de l'enfance. Toi, tu cours vite, toi, tu lis bien. Si j'ai besoin de quelqu'un qui lit bien, c'est vers toi que j'irai. Si j'ai besoin de quelqu'un qui court vite, c'est vers toi que je viendrai. Et si toutes deux, vous avez besoin de quelqu'un qui sait tout réparer, vous viendrez me voir, moi. C'est ainsi cet esprit-là, cette collaboration-là, cette solidarité-là. Tout ça, ça, c'est les dispositions spontanées de l'enfant. C'est cette manière d'aller dans le vaste monde, d'aller dans le vaste monde à la rencontre des autres et de leurs différences, de l'enrichissement mutuel par ces différences. Cette manière d'aller à la rencontre de nouveaux paysages, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux visages, c'est notre disposition spontanée. C'est ce qui nous a amenés au monde. C'est ce qui fait que l'enfant, encore une fois, quand il est petit, si vous le regardez, s'appuyant sur l'attachement et sur le port d'attache qu'il a, va vers les autres avec ses yeux grands ouverts et va avaler ce monde. Cette attitude-là, cette manière d'aller dans le vaste monde, qui est la garantie contre toutes les intolérances, c'était notre disposition spontanée, aller dans le vaste monde. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, pour ceux donc qui auront compris ma biographie, j'ai jamais été à l'école, je tiens à préciser une chose importante, parce que quand on entend dire que quelqu'un n'a pas été à l'école, on pense automatiquement qu'il est resté à la maison. Or, c'est justement pas le cas. Parce que ne pas aller à l'école, c'est la meilleure manière possible de pouvoir aller justement dans le vaste monde. Et même, rester à la maison avec ses parents, c'est ce qu'il y aurait de pire pour un enfant et sa disposition spontanée. Rester à la maison avec ses parents, ça signifie partager le peu de savoir de ses parents, et c'est forcément peu. Même s'ils sont super érudits, c'est forcément très très peu. Mais en plus, et c'est bien plus grave, rester à la maison avec ses parents, ça veut dire partager toutes les peurs de ses parents. Un exemple, Antonin, mon fils, adore grimper aux arbres. Simplement, moi, j'en ai tellement peur que s'il ne vivait qu'avec moi, il ne monterait jamais dans les arbres. Simplement, voilà, il va dans le vaste monde, à la rencontre des autres, et parmi les autres, il y en a de nombreux qui n'ont absolument pas peur quand ils grimpent dans les arbres. Il y en a même qui grimpent dans les arbres avec lui. Et donc, voilà, c'est ce qu'il y aurait de pire pour nos dispositions spontanées que de rester à la maison, enfermé, avec nos parents. Et je sais que quand je parle de ça, et de cette disposition que nous avons à aller dans le vaste monde, beaucoup de personnes pensent « oui, mais ». Vous connaissez « oui, mais » ? Ah, « oui, mais », pratique. Celui que l'on invoque, celui que l'on convoque à chaque fois qu'on a besoin de rendre impossible un rêve. Vous savez, on a un rêve, une vision, un espoir qui sont sur le point de se réaliser. Il nous faut de toute urgence un « oui, mais ». Et t'inquiète pas, si t'en trouves pas toi-même, les autres sont toujours très zélés pour en trouver tout un tas. D'ailleurs, on est tous absolument persuadés d'avoir bien plus souvent entendu « oui, mais » que de l'avoir dit nous-mêmes. C'est mathématiquement impossible. Et « oui, mais », ben c'est pratique, c'est ce qu'on trouve quand on cherche ce qui rend impossible nos rêves et nos visions. Et quand on cherche, on trouve. Vous connaissez le test de Kubitschek ? Je vais vous faire faire le test de Kubitschek. Alors, je suis comme vous, je déteste les exercices de groupe. Donc, ça ne va pas être un exercice de groupe. Je ne vais pas vous demander de vous lever, de vous masser le dos et puis de parler une minute avec le voisin de droite. Je vois qu'on a fait une minute avec le voisin de gauche, c'est ça. Non, je vais juste vous demander très rapidement de regarder autour de vous et de prendre note de tout ce qui, autour de nous, dans ce barnum, est rouge. Alors, regardez vite autour de vous. Attention, il y a un certain nombre de pièges. Hein ? Regardez bien et précisément et rapidement, précisément parce que je vais vous poser des questions, précisément parce que je vais vous interroger, rapidement et précisément parce qu'on va voir qui aura vu le plus dans le court temps imparti. Attention, stop, arrêtez. Soyez honnête, fermez les yeux. Fermez les yeux et dites-moi très très vite tout ce qui dans cette pièce est bleu. Oui, mais parce que vous l'aviez vu avant, ça. Parce qu'en réalité, vous l'aurez compris, notre cerveau n'est pas fait pour ça et nous sommes totalement incapables de prendre bonne note de bleu quand nous cherchons rouge. Impossible. Et c'est comme ça qu'il... Je dis pas que de chercher bleu plutôt que rouge aurait été plus objectif. Je dis simplement que quand nous cherchons, ben nous trouvons toujours ce que nous cherchons. Ça devrait peut-être nous inviter à ne pas chercher une couleur précise. Et donc, oui, mais quand on cherche ce qui rend impossible, on trouve ce qui rend possible. Je dis pas que c'est plus objectif de chercher ce qui rend possible, mais c'est aussi impossible. Oui, mais, me dit-on, oui, mais c'est bel et bon, ton idée, de parler de cette disposition spontanée. D'accord, on l'a tous, mais comment faire en pratique? Parce que aller dans le vaste monde, c'est possible quand l'enfant est grand, mais quand il est petit, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un reste à la maison pour s'en occuper. Alors là, vous entendez bien, rester à la maison pour le sacrifice, en fait. Et donc, et quand on me dit ça, j'ai toujours tendance à raconter une histoire que je raconte très volontiers et assez souvent. Peut-être que certains d'entre vous l'auront déjà entendue et pourtant, je trouve toujours utile de la re-raconter. C'est une histoire qui illustre justement ce qui se passe quand l'enfant va dans le vaste monde. C'est une histoire qui répond à cette question. Elle arrive à Antonin, qui n'a pas encore tout à fait 3 ans, et qui reçoit de son grand-père en jouet une petite moissonneuse-batteuse et qui veut savoir ce que c'est. Alors vas-y, raconte, explique à un enfant de moins de 3 ans en décembre à Paris ce qu'est une moissonneuse-batteuse. Mais par chance, il existe des vidéos, les méchants écrans, le méchant monde virtuel, n'est-ce pas? Et donc il y trouve des vidéos non seulement de moissonneuse-batteuse, mais en plus de sa John Deere verte avec le module GPS jaune sur le toit de la cabine. Et donc il regarde, et là c'est pas la peine de faire « Oui, t'as vu, il y a un truc qui m'a... » Il n'a pas la peine, il a très bien compris à quoi sert une moissonneuse. Et d'ailleurs, pendant tout l'hiver, il a moissonné avec sa moissonneuse toutes les surfaces horizontales qu'il a pu trouver. Jusqu'à la fin de l'été où nous passons en voiture à côté d'un champ et Antonin s'écrie « Oh, moissonneuse-batteuse, moissonneuse-batteuse !» Alors là, on s'arrête, impossible de faire autrement. Il sort de la voiture et il se plante au bord du champ. Là, il faut que vous imaginiez la scène. Petit garçon de 3 ans, moissonneuse-batteuse, qui s'approche dans son nuage de poussière et devient de plus et vient s'arrêter. Les tonnes d'acier viennent s'arrêter au ras des pieds du petit garçon de 3 ans. Le temps s'arrête. La portière s'ouvre et le moissonneur passe la tête et dit « Hé, tu veux monter ? Montez vous aussi, me dit-il. » Et nous montons et nous nous installons dans la cabine de la moissonneuse et nous y restons 2 heures. Alors je te raconte sciemment que des histoires banales, mais bien sûr qu'on est resté 2 heures dans la cabine parce que le moissonneur, il était hors de lui. Il voulait tout expliquer à Antonin. Chaque levier, chaque bouton, chaque cadran, chaque manette, tout. Il voulait tout expliquer à Antonin. Et ça tombe bien qu'à hasard et qu'elle rencontre Antonin, justement, voulait tout savoir de la moissonneuse. D'ailleurs, c'est un feu d'artifice dans cette cabine. Et pourquoi cet homme est-il tellement touché, tellement hors de lui, tellement pris aux tripes? Il nous le dit. Il nous dit dès l'abord, vous savez, ça fait des jours et des jours que je roule ici. Jusqu'à présent, personne ne m'avait vu. Le premier qui le voit, c'est ce petit humain-là. Et non seulement il le voit, mais en plus il l'admire. Et ça, se sentir admiré, voir dans les yeux d'un enfant que l'enfant pense de lui, je t'aime parce que tu es qui tu es et tu fais ce que tu fais. Et non seulement je t'aime, mais en plus je t'admire. Ça lui est jamais arrivé. Ça a dû... soit lui arriver il y a très longtemps, soit ne jamais lui arriver. Et ça le bouleverse, ce moissonneur. Ça le prend aux tripes. C'est en train de tout changer pour lui. C'est pour ça qu'il est hors de lui, qu'il nous montre tout, qu'il descend de la cabine pour aller dans la trémie chercher quelques grains de blé qu'il vient verser dans les mains d'Antonin en lui disant « Tu sais ce que c'est, ça ? C'est du pain futur. C'est sacré, ce qu'on est en train de faire. Vous vous rendez compte ? Il n'est plus en train de faire son job. » Il est en train de faire quelque chose de sacré. Et c'est en train de tout changer pour lui. D'ailleurs, il ne veut plus nous laisser partir. Mais au bout de 2 heures, il faut vraiment qu'on y aille. Alors on commence à descendre les marches de l'échelle de la moissonneuse. Et on est à mi-course et il me rappelle, il me dit « Oh, s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro de téléphone. » Alors je lui ai donné. Le lendemain matin, à 7h du matin, mon téléphone sonne. « Bonjour, c'est moi, le conducteur de la moissonneuse. Je suis de retour dans la région avec un nouveau tablier, un nouvel outil qu'Antonin ne connaît pas encore. » Vous avez vu, c'est bien préparé. Mais en réalité, il s'est préparé encore mieux que nous ne pouvions l'imaginer. Il s'est préparé de telle sorte qu'il puisse prononcer une phrase d'un seul bloc sans me laisser aucune chance de dire non. Parce qu'il n'a qu'une crainte, c'est que je dise non, pas possible, impossible, trop de... pas le temps, trop de... Et donc il a préparé cette phrase qu'il dit d'un seul bloc, et la voici. Donc, je suis de retour dans la région avec un nouvel outil qu'Antonin ne connaît pas encore. Amenez-le donc, et si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, amenez-le quand même, je m'en occupe volontiers toute la journée. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand l'enfant va dans le vaste monde, à la rencontre des autres, ça change tout pour lui. Mais ça change tout pour les autres. Ça a tout changé pour cet homme, pour ce moissonneur. Ça a changé sa manière de se voir lui-même, de voir son métier. Ça l'a tellement changé qu'il en était tellement bouleversé qu'il voulait nous voir et nous revoir, plutôt voir et revoir, et se voir et se revoir dans les yeux de l'enfant. Quand l'enfant va dans le vaste monde, ça change tout pour lui. Ça change tout pour les autres. Ça change tout pour ses parents aussi, parce que vous aurez remarqué, pour répondre à la question d'avant, que si Pauline, mon épouse, et ou moi étions restés à la maison pour nous occuper d'Antonin, ben on serait restés tout seuls à la maison pendant que lui a passé la journée sur la moissonneuse. Et pourtant, il n'avait que 3 ans. C'était pour répondre à cette question, c'était pour raconter une de ces histoires banales, c'était pour essayer de parler de cet autre côté du miroir où nous pourrions nous trouver quand on entend parler de toutes nos dispositions spontanées, quand on entend parler de cette découverte récente. On a toujours cru que nous nous développions, que nous nous bonifions avec le temps comme un bon vin, que nous devenions meilleurs au fur et à mesure du temps. Et il s'avère que c'est exactement l'inverse. Nous naissons comme des bombes de potentiel. C'est parce que nos programmes génétiques ne peuvent pas savoir, c'est les mêmes depuis des milliers d'années, ce sera les mêmes pendant des milliers d'années. Ils ne peuvent pas savoir où et quand nous allons naître, quel sera notre environnement, si ce sera la banquise ou si ce sera le désert, si ce sera au Moyen-Âge ou dans le futur. Et donc, ils nous équipent d'un dispositif capable de s'adapter à tout, nous-mêmes. Nous sommes des bombes de potentiel à la naissance. D'ailleurs, nos enfants sont encore connectés à cet océan des possibles. C'est pour ça que les enfants sont sûrs qu'ils vont tout apprendre et qu'ils vont tout devenir. Ils sont encore intensément connectés à ces potentiels. Nous venons au monde comme des bombes de potentiel et nous semons ces potentiels aux 4 vents, une sorte d'hémorragie ininterrompue pendant les premiers mois de notre existence, tout simplement parce que dans l'ordre du monde tel qu'il est de nos jours, seulement certains de ces potentiels, très peu, sont sollicités de manière darwinesque ou darwinique, comme vous voulez. Ceux qui ne sont pas sollicités se rétractent, se racornissent et disparaissent comme un bonsaï. C'est ce que nous devenons. Nous devenons l'ombre de ce que nous pourrions devenir, simplement parce que justement tous ces potentiels ne sont jamais sollicités. Et on pourrait se demander qui sont les tenants de ces potentiels, cet océan de génie que nous sommes à la naissance. Qui sont-ce les grands scientifiques, les virtuoses, les musiciens, les acrobates? Tous ces gens que nous admirons, tous ces sages et toute leur conscience, est-ce que ce sont eux qui sont encore les tenants ? Est-ce que ce sont eux les tenants de nos potentiels ? Oui, on peut dire que oui, ils ont développé des potentiels jusqu'à l'extrême en les vivant et les pratiquant avec tout leur enthousiasme. Mais à chaque fois, ce n'est qu'une toute petite fenêtre sur cet océan des possibles que nous étions à la naissance. Non, les tenants, les gardiens de nos potentiels sont nos enfants. Et ça change complètement notre manière d'aborder l'enfance. Car je suis persuadé, je vais tâcher de finir là-dessus, qu'il n'y aura pas de paix sur Terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Et à chaque fois que je parle de cet autre côté du miroir, de venir de cet autre côté du miroir où nous faisons confiance à l'enfant, j'ai toujours l'espoir que ça vous donne envie à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous de venir et de rester de ce côté du miroir. Car chaque minute que nous passons de ce côté du miroir est une bénédiction pour l'enfance. Il n'y aura pas de paix sur terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Et avant de vous céder la parole pour les questions, j'ai envie de vous souhaiter beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance.
Merci, merci André. Maintenant, place aux questions. Vous en avez sûrement plein. Voilà.
Alors, il y a Elisabeth qui va faire du sport pour vous apporter le micro et qui va essayer de garder un œil panoramique. On a jusqu'à 7h30, c'est ça ? On a trois quarts d'heure, un peu moins de trois quarts d'heure.
Alors, avant tout, merci.
Merci à vous.
Je suis en train de passer de l'autre côté du miroir grâce à mes enfants. C'est-à-dire que j'ai eu des enfants qui ont beaucoup souffert de l'école. Et ce qui m'est venu à l'idée, c'était l'école à la maison. Et grâce à vous, j'ai découvert encore autre chose. Et grâce à mes enfants, ils me prennent par la main et m'emmènent au-delà. Et on commence l'enseignement informel. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager parce que c'est une grande gratitude pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Et d'autre part, je voudrais savoir, vous avez parlé quelquefois de tout ce qui est jeux vidéo et écrans et choses comme ça. Je voulais avoir votre regard là-dessus, s'il vous plaît, parce que mes enfants sont des fans de Minecraft.
Ouais.
Et ben voilà, moi, ça ne me gêne pas plus que ça, mais j'aurais voulu avoir vos impressions par rapport à ça. Voilà, merci.
Alors merci, c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'elle permet justement d'apporter un éclairage, encore une fois, très nouveau. Tu te rassures ? C'est toi qui es la garante de la justice des questions. De gauche, droite, milieu. Alors, le monde virtuel, hein, on va résumer ça sous la méta-notion de monde virtuel. C'est parce qu'on a diabolisé ce monde. Je dis virtuel, c'est parce que c'est social, virtuel, jeu virtuel, etc., etc. Et donc, on a beaucoup diabolisé ce monde. C'est devenu tout un marché, d'ailleurs, de diaboliser ce monde. Certains, surtout en Allemagne, s'emploient à vous expliquer qu'il faut surtout tenir l'enfant à l'écart du méchant monde virtuel jusqu'à 7 ans. Apparemment, à 7 ans, il se passe un truc. Et donc, alors, c'est intéressant de voir ça. On nous dit que c'est un monde dangereux pour l'enfant. Et c'est une conclusion que nous en tirons qui a l'air juste parce que les faits l'illustrent. C'est-à-dire que si l'enfant entre dans ce monde, il n'en revient plus. C'est comme un trou noir qui aspire l'enfant, qui n'est plus capable de s'en éloigner. Et l'observation de la réalité a tendance à corroborer cette théorie, puisqu'effectivement, les enfants entrent dans ce monde et n'en reviennent plus. Donc, conclusion, c'est un monde dangereux dont il faut protéger les enfants. Bon. Alors, première chose à observer en passant, avant d'entrer en détail, parce que justement, c'est l'éclairage-là qui m'intéresse le plus. C'est, pour moi, central, en réalité, comme question. Alors, la première chose à remarquer, je disais tout à l'heure que la pire chose que nous puissions ressentir, c'est la sensation d'être exclu. Les enfants regardent, je le répète, notre monde et se sentent dans le désir d'être comme les coéquipiers de la grande équipe qui a toutes les couleurs de peau, toutes les religions, tous les métiers, tous les âges. Et puis s'ils regardent bien, hein, chacun d'entre nous, même si toi tu n'en as pas le voisin en nom, a un smartphone, une tablette, un ordinateur, la moindre caisse enregistreuse est un ordinateur, le moindre distributeur de friandises est un ordinateur. Donc c'est partout, on ne reviendra pas là-dessus, notre monde a changé, a évolué, il est tel qu'il est. Donc l'enfant, lui, veut avoir les mêmes uniformes et les mêmes accessoires que les autres membres de la grande équipe dont il a envie de faire partie. Et donc on dirait à l'enfant... Quand on dit à l'enfant, bah, tu vois, moi j'en ai un, mais toi c'est pas de ton âge, c'est un peu comme on dit, si on disait, tiens, tu vois, moi j'ai un smartphone et toi tu en as pas parce que t'es une femme. Ça passe pas, hein ? Non, mais ça, vous pouvez le faire à tous les coups, ça marche impeccable. Par exemple, je pourrais avoir un consensus ici si je disais, les enfants ont besoin de limites. Et là, on aura un acquiescement assez général. Les enfants ont besoin de limites. D'ailleurs, ils cherchent souvent les limites. Et d'ailleurs, il faut leur montrer parce que sinon... Alors, la phrase marche bien, on a un consensus. Les enfants ont besoin de limites. Vous changez un mot à la phrase et elle marche, mais plus du tout. Alors, les noirs ont besoin de limites. J'ai moins d'amis, là. Les femmes ont besoin de limites. Ah, ça sonne moins bien, hein ? Et ça devrait attirer notre attention sur un fait tout simple. Si ça marche pas dans un cas ou dans l'autre, c'est que ça marche pas dans le troisième non plus. Rien que ça. Puisque si on dit à l'enfant, moi je fais partie du groupe qui a le droit, mais toi, pas encore. Deux choses. D'abord, je t'exclus de ce groupe, mais en plus, je te propose d'envisager de grandir. C'est-à-dire de changer de groupe. C'est-à-dire de... Ah, les sacro-saints progrès. Faire des progrès, ça veut dire avoir toujours le regard posé sur devenir. Du coup, on n'a plus le temps d'avoir le regard posé sur être. Et donc, on dit à l'enfant qu'il n'a plus qu'une, il n'a plus qu'une hâte, plus qu'un désir, c'est de quitter au plus vite sa condition inférieure pour enfin atteindre l'âge auquel il aura le droit de partager les accessoires qui font le monde dans lequel on lui demande par ailleurs de s'intégrer. Rien que ça, ça devrait déjà attirer notre attention sur... Il y a un problème avec cette idée-là. Mais là où c'est bien plus intéressant et bien plus spectaculaire, c'est maintenant. Il faut se plonger dans le monde de l'enfance pour voir dans quel monde l'enfant évolue. Il évolue dans un monde, il navigue dans un monde fait de deux parties. La première partie, c'est la maison. La deuxième partie, c'est l'école. Dans la première moitié, on va dire l'école pour commencer, et ce n'est pas une critique, je ne suis pas un critique scolaire, moi je travaille main dans la main avec des gens qui font, qui donnent l'école. On n'est pas en train d'accuser quiconque, on n'est pas du tout en train de critiquer. Mes parents ne se sont pas décidés contre l'école, mais pour les dispositions spontanées de l'enfant, c'est complètement différent. Mais dans le monde scolaire tel qu'il est actuellement, tant que les paradigmes sont ce qu'ils sont, tant que les attitudes sont ce qu'elles sont face à l'enfant, il est impossible dans le monde scolaire pour l'enfant de devenir ce que pourtant chaque enfant désire être, un héros, héroïque, être vu, admiré, respecté, envie d'être un héros, c'est notre envie à tous, mais surtout, impossible. Alors, si tu es un bon élève, de toute manière, tu ne peux pas être un héros pour tout le monde, parce que si tu es un héros pour tes profs, tu ne l'es pas du tout pour les autres, normalement, les camarades, et puis on parle des bons élèves, là, puis tu ne peux pas être de manière durable, je veux dire, si tu es super, un crack en maths, en géo, si ça se trouve, tu es moins bien, alors là, en plus, tu es tellement héroïque dans l'un que dans l'autre, tu fais vraiment nul, quoi. Et donc, impossible d'être de manière durable un héros, et puis on ne parle pas des mauvais élèves, ceux qui, auxquels on fait honte, auxquels on impose l'humiliation, qui sont rejetés par les autres, exclus par les autres des groupes de pairs, P-A-I-R-S, hein, les pires groupes en anglais, les pires groupes. En français, ça sonne bien aussi. Dans le monde scolaire, dans l'environnement scolaire, dans le setting scolaire tel qu'il est actuellement, impossible pour l'enfant d'être un héros. Pourtant, c'est ce qu'il a envie d'être. Impossible de l'être. Vous me direz, c'est pas trop grave, ce n'est que la moitié de son existence. L'autre moitié, il la passe à la maison. Et oui, mais à la maison non plus, il n'est pas possible d'être un héros. Tant que les attitudes sont ce qu'elles sont, tant que les paradigmes sont ce qu'ils sont, impossible d'être un héros à la maison. Et encore une fois, on parle des bons élèves. Mais c'est parce que ça commence très tôt. Très tôt, justement, on te demande de faire des progrès. Très tôt, on te demande de changer, de poser ton regard sur le fait de grandir, de devenir, de faire des progrès et jamais sur le fait d'être. Très tôt, on veut que tu changes, que tu sois un autre toi. Vous savez, ça commence avec une question anodine. On ne se rend pas compte à quel point elle est anodine et dangereuse. Vous l'avez tout entendu, la question récemment. Vous l'avez entendu. Alors, il fait ses nuits ? Hein, vous l'avez entendu, 3 semaines. Alors il fait ses nuits. Bon, ça a l'air de rien comme ça. Mais ça amène chaque parent à rencontrer son enfant en lui disant, intérieurement quelque part, en réalité, je t'aimerais plus si tu dormais davantage. Donc il faut que tu changes. Il faut que tu deviennes une autre. Parce que tel que tu es, ça ne me convient pas. Et toi, pourtant, tu as tellement envie de me plaire que tu es prêt à abandonner toutes tes dispositions spontanées au profit de ce qui a du succès auprès de moi. Et donc, impossible, tant que c'est comme c'est. Et on parlait des bons élèves, n'oubliez pas les mauvais auxquels on dit « Alors, personne dans la famille n'a jamais eu d'aussi mauvaise note en maths. » Alors là, c'est une question exclusive. Impossible dans le setting familial tel qu'il est, tant qu'il est, comme il est, dû à nos attitudes, dû à nos paradigmes. C'est impossible d'être un héros dans le milieu familial. Alors j'ai envie de dire, regardez, on a le problème suivant. Impossible d'être un héros dans la première moitié de ta vie, le monde scolaire. Enfin, l'une des deux moitiés de ta vie, le monde scolaire. Et impossible d'être un héros dans l'autre moitié de ta vie, la maison, la famille. Dans quel monde est-il facile et rapide de devenir un héros ? De manière presque immédiate, hein ? Parce que l'ordinateur t'ouvre les bras. À l'ordinateur... Ça ne lui importe absolument pas tes performances scolaires. Il ne fait aucune discrimination, que tu sois homme, femme, bon, mauvais, à l'école, blanc, noir, grand, petit. Il en a rien à... Il t'ouvre les portes d'un monde dans lequel on t'invite à jouer, ton penchant, et dans lequel, par ce jeu, tu vas enfin gagner le respect et l'admiration des autres et de manière durable. Tu deviens enfin ce que tu voulais être, un héros. Et bien, puisque c'est le seul monde dans lequel c'est possible de l'être, je comprends que l'enfant ne veuille plus en revenir du monde virtuel. Et donc ce nouvel éclairage est très intéressant parce qu'il nous montre que ce n'est pas le monde virtuel qui est dangereux pour l'enfant. On s'est trompé de victime à de cible pour notre courroux. Ceux qui sont dangereux, ce sont les deux autres mondes de l'enfant. Et c'est là qu'est notre chantier. C'est ça l'invitation intéressante ici. Et c'est là que vous voyez pourquoi je parle d'une attitude. Parce que c'est là qu'on a un tout autre chantier. C'est là qu'on a un tout autre chantier pour rendre l'un et ou, mais de préférence l'un et l'autre, des mondes de l'enfant tout aussi appétissants que le monde virtuel. Et lorsqu'on aura fait ça, on n'aura plus aucune chose à craindre du monde virtuel. C'est pas lui qui est méchant. C'est les deux autres. Voilà mon éclairage sur la chose. Ça vous convient à peu près comme réponse. Et du coup, vous avez vu, ça, encore une fois, c'est une invitation à quelque chose de nouveau parce que c'est un énorme chantier, ce dont je vous parle. Mais il est là, à portée de main, hein.
Oui, bonjour. C'est pour répondre un petit peu à la question. Là, vous avez répondu partiellement. Moi, je me demande de la position de l'enfant, une cour de récréation où il y a du jeu, beaucoup de jeu, et de la violence. Cette violence, comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'elle est naturelle, comme ce que vous ne dites pas ? Quelle est la part de cette violence ? D'où elle vient ? Parce qu'il y a souvent beaucoup de violence dans une cour.
Nous ne naissons pas imparfaits. Nous le devenons. Et nous le devenons comme nous nous sommes mis debout en regardant les autres. Et ça, c'est imparable. Et tant qu'on ne se rend pas compte de ça, on ne se rendra pas compte d'une chose primordiale, et merci de me donner la possibilité de le dire, nous sommes tous, tant que nous sommes, sans nous en rendre compte, pour les enfants de ce monde, les nôtres ou ceux des autres, nous sommes tous en permanence des modèles. Et c'est une énorme responsabilité. C'est sous les yeux de nos enfants que nous vivons le monde qui pourrait être le leur demain. Je commence à peine à répondre à votre question. Je veux dire que n'oublions pas une chose. Dans l'enfant, nous voyons notre passé. L'enfant que nous avons été, l'enfant que nous aurions pu être. Mais eux, ils voient en nous, en permanence, leur avenir. Ce qu'ils vont devenir. Donc ça nous incite à être extrêmement prudents dans le choix de ce que nous vivons sous leurs yeux. Parce que nous sommes leurs modèles, leurs exemples. Quand je dis leurs modèles, je tiens à préciser encore une fois ce qu'est un modèle aux yeux de l'enfant. Aux yeux de l'enfant, un modèle, c'est pas... Alors par exemple, pour moi, un modèle pour moi, c'est mon papa. Mon papa, dans tous les domaines possibles, est pour moi un grand modèle. Mais ça ne veut pas du tout dire que j'ai envie d'être mon papa. Non, ça veut dire qu'il est tellement lui qu'il me donne envie d'être autre en moi que lui est lui. Et c'est comme ça que les enfants regardent les personnes qui les inspirent, et les personnes qui les inspirent, c'est nous. Et donc nous ne saurions être trop prudents dans le choix de ce que nous vivons sous les yeux de nos enfants. Il y a une étude très intéressante qui est évoquée dans un film que vous avez peut-être vu de Erwin Wagenhofer qui s'appelle Alphabet. Il y a une étude qui est une large étude faite en Amérique, qui s'appelle Born to be Good, et qui montre une chose, c'est que jusqu'à 6 mois, l'enfant ne connaît ni agressivité, ni autre chose que la collaboration. La compétition et l'agressivité, il ne les découvre qu'à partir de 6 mois en regardant le monde. Après, il faut voir certaines choses. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a rien de pire pour nous autres, les humains, que d'être exclus, et que donc de tenir l'enfant à l'écart du monde, c'est ce qu'il y a de pire pour lui. Garder un enfant à la maison, c'est ce qu'il y a de pire par rapport à sa disposition spontanée qui est d'aller dans le vaste monde. Il y aurait une autre chose qui serait vraiment catastrophique, délétère et complètement absurde face à nos dispositions spontanées. Une autre configuration qui n'existe pas, mais que je vais nous inviter à imaginer courtement pour imaginer une autre situation dans laquelle pourraient apparaître certaines choses. Alors je le répète, c'est une situation qui n'existe pas, elle est purement rhétorique, je vais vous demander de faire l'effort avec moi de l'imaginer. Alors moi je ne suis pas du tout un critique scolaire, je l'ai déjà dit, et ce n'est pas une critique que je vais faire du tout, mais je vous invite à imaginer avec moi un endroit où on réunirait des enfants d'après des critères absurdes. Alors qu'est-ce que pourraient être des critères absurdes ? Ceux qui courent vite, ou les couleurs d'yeux, les couleurs de cheveux, ou l'âge. Alors l'âge, ça serait un critère vraiment particulièrement absurde pour réunir les gens, puisque c'est jamais comme ça dans la vie. Je veux dire, moi, mes amis, je les ai rencontrés, comme vous d'ailleurs, pour des raisons d'intérêt commun. Nos intérêts communs nous ont fait nous rencontrer. Du coup, à l'intérieur des intérêts communs, c'était la plus grande diversité possible qui était la garante de l'enrichissement mutuel. Passion commune, enthousiasme commun, mais différence dans ce que nous apportons les uns aux autres. Donc collaboration, donc mutualisation, tous les grands mots de qui sont l'état natif de l'enfance. Alors donc, réunir les enfants d'après des critères d'âge, critères absurdes et complètement arbitraires, serait effectivement assez absurde. Il y aurait tout aussi absurde, ça serait de réunir les enfants d'après des critères de géographie. C'est-à-dire, on est fait pour aller vers de nouveaux paysages et on nous dirait, puisque vous voyez tous les jours le même paysage, ça sera une raison pour vous réunir. Alors ça serait foutu, question enrichissement, nouveau paysage, plus rien quoi, tous le même paysage, tu vois la même chose, donc on vous réunit, donc fini l'enrichissement, donc même paysage, donc même environnement géographique plus même âge, voilà vraiment une manière absurde de réunir des gens, des enfants, mais il pourrait y avoir quelque chose d'encore plus terrible. Continuons à imaginer cette chose. Imaginons par exemple que alors tous ces enfants classés d'après ces drôles de critères, donc devenus comparables dans l'incomparable du monde et de nos dispositions, tous ces enfants, tout d'un coup, on les confronterait tous au même moment avec la même quantité du même savoir. Alors ça serait totalement catastrophique parce qu'entre toi et moi, au lieu qu'il y ait une relation, il y aurait une entité de savoir prédéfinie qui nous bouche le paysage. Donc on se voit plus. Et ce qui nous reste, puisqu'on est comparable de par notre âge, notre environnement géographique, etc., ben il nous reste à nous comparer par rapport à cette entité de savoir posée entre nous. C'est-à-dire de voir combien toi ou moi, nous avons retenu par cœur du contenu de cette entité de savoir. Et si tu en sais plus que moi, je te déteste. Si c'était possible, j'aimerais t'éradiquer de la surface de la planète. La pire forme, c'est pas vrai, hein? La pire forme des relations humaines naîtrait de cette configuration. La compétition, la concurrence, l'agressivité, la guerre, ça naît de ça, de cette situation absurde dans laquelle on aurait mis les enfants si ce dont je viens de parler existait. Par chance, c'était un monde imaginaire, de tels lieux n'existent pas. Ça répond à peu près à...
Pourquoi on oblige les enfants à aller à l'école ?
Alors, moi, Alors, ce qu'il y a d'interpellant dans ce que tu dis, c'est le fait de les obliger. Parce qu'il y en a plein qui seraient très contents d'y aller de leur propre chef. Et... Non, mais la question, c'est pourquoi on les oblige. La plupart d'entre nous... Alors, il n'y a pas d'obligation scolaire en France, il y a une obligation d'instruction, ce qui est effectivement une notion autour de laquelle on peut... Mais moi, je ne suis surtout pas en train de prôner une méthode plutôt qu'une autre. Je ne suis pas en train de dire, si vous faites comme moi, vous allez être heureux. Si quelqu'un vous dit un jour, appliquez telle méthode et vous allez être plus heureux, mais prenez la fuite. Ça n'existe pas de réponse unique. Ça n'existe pas une bonne méthode. Ça n'existe pas quelque chose qui est valable pour tout le monde. Ça n'existe. C'est pour ça que j'essaye de vous parler d'une attitude. Une attitude nouvelle. Une nouvelle attitude face à l'enfant, celle que j'appelle l'écologie de l'enfance. Effectivement, il y a ce manifeste d'une écologie de l'enfance qui sera en vente tout à l'heure, à l'instant présent. Et j'irai, me ferai même un plaisir d'être là-bas sur le stand, si vous voulez des signatures. Donc cette écologie de l'enfance, cette nouvelle attitude, va amener toutes sortes de changements. Dont cette question. Mais il y a des pays où c'est pire que... En France, il n'y a pas d'obligation scolaire. En Allemagne, on est obligé d'aller dans le bâtiment école. La question ne se pose même pas. Donc, on les oblige ou on les invite, parce qu'on ne connaît pas autre chose. Mais maintenant qu'on connaît autre chose, de nouvelles choses vont se produire. On nous oblige à apprendre, c'est parce qu'on a réussi le miracle incroyable de rendre l'apprentissage un métier. Apprendre, c'est un métier qu'on exerce de 9h à 12h et de 14h à 18h. Après, c'est fini. On dit qu'il faut pas faire on dit qu'il faut pas faire travailler les enfants. On les fait travailler, effectivement, oui, du matin. Mais c'est vrai aussi, ça. L'apprentissage, ne l'oublions pas, n'est pas un métier. L'apprentissage n'est rien d'autre que l'effet secondaire du jeu. et de l'enthousiasme. Et ça suffit. Seulement, on a trop peur. Nous pensons que le jeu ne suffirait pas et que si on laisse un enfant jouer toute sa vie, ben, il n'apprendra jamais rien. D'ailleurs, je suis le seul dans cette pièce, je pense, non, peut-être pas aujourd'hui, à pouvoir répondre à cette question. Et là aussi, c'est étrange d'être une exception. Qu'est-ce qu'il arrive à un enfant qu'on laisse jouer ? Pas toute une journée, mais toute une vie. Ça devient vraiment un sauvage, asocial, chômeur et analphabète ou pas ? On ne sait pas répondre à cette question parce que personne n'a le courage jusqu'ici, n'a eu le courage de l'essayer, tout simplement parce qu'on avait trop peur, parce qu'on nous a dit tous les malheurs qui nous fondraient dessus si on laissait un enfant jouer toute la journée, parce que justement, on pense que jouer et apprendre, vivre et apprendre sont des choses différentes, alors que ce ne sont que des gros synonymes pour la même chose.
André, il y a une question sur l'écologie de l'enfance et l'origine de ce terme.
L'origine de ce terme. Alors, c'est que si vous allez au bout du concept de l'écologie de l'enfance, c'est-à-dire cette nouvelle manière de rencontrer l'enfance, le concept d'enfance disparaît, et donc l'écologie de l'enfance aussi. Mais il faut trouver des mots pour décrire les choses. On a développé la notion d'écologie par rapport à l'environnement et pour cause. Par rapport à la nature, et ben cette même attitude pourrait s'appliquer à l'enfance. Cette écologie de l'enfance est tout simplement le seul mot que j'ai trouvé jusqu'ici pour décrire cette nouvelle attitude face à l'enfance, donc face à nous-mêmes. Il se trouve que c'est devenu le nom d'un mouvement qui est en cours, mais qui n'a pas de leader, qui n'a pas de programme, qui n'a pas de cotisation, qui n'a rien de tel, parce que c'est juste un mouvement de gens debout, et c'est pas un mouvement qui met les gens debout, c'est parce que les gens sont debout qu'il existe. Mais cette écologie de l'enfance, ça interpelle aussi tous les écologistes, et Dieu sait qu'aujourd'hui on en aura dans la salle, ou ici dans les lieux, et Dieu sait que c'est d'actualité, parce que la plupart des gens les plus téméraires sur les sentiers de l'écologie, face à tout, leur manière de se nourrir, de s'habiller, de se transporter, de vivre, de penser, de se chauffer, ils sont tous vraiment dans une témérité, aux avant-postes. Mais dès qu'il s'agit d'enfance, leur témérité s'arrête. Or, il est temps qu'on se rende compte, je le répète, qu'il n'y aura pas de paix sur Terre, qu'il n'y aura pas d'écologie, qu'il n'y aura pas de respect, tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. C'est par là que tout commence. Et j'ai envie d'ajouter, et c'est maintenant que tout commence.
Moi, j'ai juste un témoignage. En tout cas, d'abord, je voudrais dire que j'ai été plusieurs fois ému à avoir les larmes aux yeux de vous entendre et de vous lire par le livre. Pourquoi ? Parce que c'est vrai.
Que l'enfant en vous.
C'est vrai, parce que je le vis au quotidien. On a fait le choix avec notre fille Chloé, qui pendant 3 ans, tous les matins, nous posait la question, pourquoi aller à l'école ? Donne-moi une bonne raison d'aller à l'école. Alors on y a réfléchi. Et là, tous les jours, l'enthousiasme, il est là, c'est la folie. C'est pour ça que j'ai les larmes aux yeux de vous entendre, parce que l'enthousiasme, il est là toutes les minutes, toutes les 30 secondes. J'en peux plus tellement qu'il y a d'enthousiasme. Et le problème, il vient de moi maintenant. C'est qu'il y a trop d'enthousiasme et je dois me contenir à ne pas interférer dans cet enthousiasme. Voilà, j'ai un autre fils qui est là, qui a 3 ans. Et qui, pareil, apprend avec enthousiasme. Il connaît tous les dinosaures tout seul.
Mais on le sait, ça, hein ?
Voilà. Donc, je voudrais témoigner que tout ça, ce n'était pas réel pour moi jusqu'à que je prenne la décision d'écouter ma fille. On l'a fait avec inquiétude.
Ben oui.
Puis, on a fait le pas. Et finalement, c'est fantastique. C'est incroyable pour elle. Pour nous, pour moi en tout cas. Voilà. Et puis je voudrais parler d'une autre expérience qui peut par contre servir à tout le monde. C'est que grâce à tous ces événements, je m'engage un peu plus et je co-organise une conférence de Léandre Bergeron, que vous devez connaître, voilà, qui aura lieu à Lyon le 23 mai à 19h30. On pourra préciser le lieu ultérieurement. Sur le site bergeronlyonwordpress.com, Léandre Bergeron va parler de son expérience aussi personnelle à laisser l'enthousiasme de ses filles vivre. Voilà. Merci.
Un Québécois, un Canadien. Un des pionniers.
Et il y a peut-être des instits dans la salle qui ont envie de s'exprimer. C'est pas toujours facile d'entendre tout ça. Pascal.
Avec... Hein?
Vous êtes enseignant?
Non, c'est maintenant la question est réservée aux enseignants. Ce n'est pas enseignant,
voilà,
vous
posez.
Moi, je veux bien intervenir. Je suis actuellement enseignante dans une école publique, un peu différente. Moi, je partage complètement la position d'André. Je pense que tout vient de la posture que prend l'adulte par rapport à l'enfant. Voilà. Moi, je suis dans une classe multiniveau et je crois que c'est vraiment une des solutions pour faire bouger l'école, c'est d'avoir des classes multiniveau. Voilà, on est déjà beaucoup moins dans la problématique dont tu as parlé. Et puis après, de partir des enfants tout le temps. Alors, en tant qu'adulte, d'arrêter de vouloir inculquer quelque chose du haut, mais de partir d'eux et d'essayer d'alimenter.
Mais voilà. Et tout ça n'est que du bon sens.
Ouais.
Effectivement. Et c'est pour ça que je dis bien que ce n'est pas une méthode et que cette attitude s'applique partout. Et il n'y a pas d'antinomie entre... D'ailleurs, c'est plus souvent par le public d'ailleurs, qu'arrive actuellement le vrai changement. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux, tous ces instituteurs, tous ces enseignants et toutes ces personnes qui réunies essayent de créer des environnements qui ne soient pas qui soient le moins néfastes possible à nos dispositions spontanées, dont on a évoqué 4 ou 5 aujourd'hui, mais elles sont innombrables. Et je trouve ça... Je suis très reconnaissant à tous ces enseignants, ces éducateurs, ces pédagogues qui se donnent le mal d'essayer de créer une bulle dans laquelle on réunit des conditions qui ne sont pas trop délétères à l'enfance. C'est extraordinaire et vous avez tout mon respect. C'est pas mon chantier, parce que mon chantier est un autre et vous allez voir pourquoi ils sont complémentaires mais très différents. Parce que moi, quand on fait une bulle dans laquelle les conditions ne sont pas trop négatives, c'est merveilleux, c'est une bénédiction pour l'enfant. Oui, mais ça veut bien dire que à l'extérieur de la bulle, les conditions ne sont pas propices. Il est là le chantier. Il est là le chantier parce que quand on aura changé l'attitude face à l'enfance dans son ensemble, donc l'environnement aura changé, donc on n'aura plus besoin de la bulle pour mettre l'enfant dans des conditions qui ne sont pas négatives ou néfastes à ses dispositions spontanées. Il est là le grand, grand chantier auquel je tâche, moi, de m'atteler. Mais je sais bien. Et je trouve cependant merveilleux que certains travaillent à ces oasis-là.
Alors, j'aurais deux parties à ce que je voudrais partager avec vous. J'ai été effectivement enseignante et j'ai mis mes enfants dans des écoles nouvelles, ce qui scandalisait beaucoup mes collègues. Et c'est vrai que c'est un lieu où on tend à aller dans ce sens-là. Et c'est magnifique. Mais il y a quand même une question que ça me pose. J'ai l'impression que mes enfants, maintenant qu'ils sont adultes, ils ont du mal à être confrontés à notre monde actuel, qui est brutal, qui est violent. Ils ont tendance à se faire exploiter. Enfin bon, c'est un petit peu difficile. Et bon, c'est une question que je me pose, je culpabilise un peu, je me dis, est-ce que, voilà, comment faire pour qu'ils soient bien armés tout en ayant cette éducation-là? Et parallèlement à cette question-là, j'en ai une deuxième. Parce que quand vous dites, bon, vous n'êtes pas allé à l'école, etc., mais comment vous vous intégrez dans notre système social qui est ce qu'il est pour le moment, en espérant que ça changera, quand vous voulez postuler pour un travail, quand vous voulez... voilà, on nous demande des diplômes, on nous demande des formations, on nous demande des tas de trucs. Voilà. Comment, quand on sort du cadre, on peut, après, y rentrer dans une certaine mesure, puisqu'il faut bien y rentrer?
Alors, je vais commencer par la deuxième question. Comment vous dites, non, vous aviez pas s'introduire sans, vous avez s'intégrer au système social tel qu'il est actuellement. Alors déjà, s'intégrer veut bien dire qu'on en était sorti. L'enfant, lui, n'est pas sorti du monde, il en fait partie. Si on le laisse se livrer à sa disposition spontanée, s'il a un port d'attache, l'attachement, s'il a ce port-là, il va dans le vaste monde à la rencontre des autres et de leurs difficultés, leur méchanceté pour certains et tout, mais en réalité pas toujours. Et donc il est de plein pied avec la réalité sociale. C'est quand on sort l'enfant du monde pour l'y préparer que le jour où il est confronté au monde, il a du mal à le rencontrer. C'est l'histoire de la bulle. Mais quand on est de plein pied avec le monde, on est tout à fait au courant de comment il fonctionne. Et l'enfant qui a reçu un feu vert à ses dispositions spontanées, en gros, c'est « tel que tu es parfaite ». Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas changer, évoluer, que tu n'as pas de défaut. Ça veut dire « tel que tu es parfaite ». S'il y a quelqu'un qui donne ce feu vert à tes dispositions spontanées depuis le début, tu vas dans le vaste monde et tu es sur des rails. Et donc, s'intégrer au monde, non, je n'ai jamais eu à m'intégrer au monde parce que j'en ai toujours fait partie, aussi bien socialement que... Alors, autre question, s'intégrer professionnellement, déjà, il ne faudrait pas qu'on nous désintègre professionnellement, et là, j'emploie les deux sens du mot, et parce que ça repose sur certaines choses, sur cette peur qu'on nous fait, et on nous prévient, il va falloir des diplômes, il va falloir des qualifications. La réalité du monde est autre. On ne vous demande jamais une qualification, on vous demande toujours une compétence. Ça, c'est la réalité au quotidien. Toutes les personnes que nous admirons le plus de nos jours, Steve Jobs en étant l'exemple, par exemple, sont tous des personnes qui, en général, n'ont jamais fini leur cursus scolaire, mais que nous admirons quand même. C'est parce qu'il s'avère une chose dont moi je peux témoigner tout simplement, c'est que l'enthousiasme, lorsqu'il est vécu, lorsqu'on va au bout de son enthousiasme, on devient l'enthousiasme, du coup, a un effet secondaire extrêmement rapide. Alors, un exemple. Quand moi, je me suis mis à me passionner pour la langue allemande, je pouvais faire 6 à 8 heures d'allemand par jour. Il n'y avait personne pour venir m'interrompre au bout de 45 minutes et me dire « Maintenant, il va falloir que tu fasses autre chose, des maths ou de la bio. » Donc, on devient très, très vite très, très compétent. Et puis, de plus, il y a la conspiration de l'univers. Quand tu t'intéresses à quelque chose, il se trouve que ça te saute aux yeux tout le temps. Les femmes enceintes découvrent que le monde est plein de femmes enceintes, ça arrive aux pères enceintes aussi. Un mot que vous n'aviez jamais entendu, et puis tout d'un coup, vous le découvrez, ça fait 45 ans que vous ne l'avez pas entendu, vous le découvrez. Les autres qui ne l'ont jamais employé, ils font exprès de n'employer que ce mot 2 fois par jour. Donc on sait que c'est ça. Et on sait qu'à partir du moment où il y a cette conspiration de l'univers, en plus il y a la conspiration des amis et de la famille. C'est-à-dire s'il y a un oncle qui collectionne les capsules de bière, toute la famille collectionne des capsules de bière pour les lui amener à son anniversaire ou à Noël. Donc, et puis il y a un phénomène d'accrétion. Parce que quand tu t'intéresses à quelque chose, tu deviens magnétique. Et donc c'est une accrétion, tu deviens de plus en plus compétent, de plus en plus compétent. De plus, il y a toutes les rencontres, les enrichissements par les différences, etc. Tu deviens tout d'un coup extrêmement compétent, et cette compétence n'est autre chose que l'effet secondaire de ton enthousiasme. L'enthousiasme vient avant, la compétence n'en est que l'effet secondaire, rien d'autre. Et puis il s'avère que cette compétence élevée, extrême, sincère, vécue, elle a aussi un effet secondaire. C'est la fameuse réussite sociale et professionnelle. C'est parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a besoin de toi maintenant avec cette incroyable compétence et tout ce que tu amènes que personne d'autre n'amène. Et cette personne, elle n'en a rien à faire de tes qualifications. Jamais elle ne te demandera quoi que ce soit au sujet de tes qualifications. Elle a besoin de toi et de ta compétence maintenant. Et donc, ce fameux succès dont on nous dit qu'il s'obtient à coup de diplôme, alors que c'est même plus vrai, 50% des jeunes diplômés espagnols n'ont pas de travail. Donc on ne peut plus la phrase « si tu fais de bonnes études, tu auras un bon diplôme, si tu as un bon diplôme, tu auras un bon boulot », elle ne marche plus. Donc même celle-là, on ne peut plus nous la vendre. Or, ce qu'ils savaient, c'est toujours à nouveau l'histoire avec un grand H fourmi de petites histoires qui nous expliquent toujours la même chose. Quand quelqu'un a trouvé son élément, dit Ken Robinson, quand quelqu'un a trouvé son enthousiasme, sa compétence se développe par effet secondaire, sa réussite professionnelle aussi. Il y a plein d'histoires que je raconte dans mon gros livre, celui paru chez Actes Sud, mais il est en rupture de stock pour l'instant. c'est parce que je pense qu'ils n'ont pas d'ordi. Faut qu'ils descendent pour voir les stocks. Non, bref. Et donc cette compétence, dès que la réussite professionnelle n'est que l'effet secondaire de l'effet secondaire de l'enthousiasme. Et ça, c'est imparable. Mais s'il se trouve que tu veux un jour exercer un métier dans lequel il faut absolument avoir un diplôme, mais c'est pas un problème de réussir à passer tous les diplômes qu'il faut pour l'avoir. Par exemple, j'ai réussi mon permis de conduire. Donc, il faut arrêter de somnibuler par ça. Et de cette idée de s'intégrer au monde, on en a besoin que lorsqu'on en a été sorti et exclu. Et la première partie de votre question est répondue aussi par celle-là. J'ai jamais eu, et c'est tout ce dont je vous ai parlé, mais c'est en aucun cas un mérite personnel, vous l'aurez compris, parce que je suis un enfant des plus banals. Moi, je n'ai rien inventé, il m'est juste arrivé quelque chose, une sorte de paysage dont je vous parle, mais c'est très simple d'en parler. On n'a pas à rencontrer le monde quand, depuis le début, on s'est livré à sa disposition, qui est d'aller dans le monde et de le rencontrer avec toutes ses formes, toutes ses couleurs, toutes ses diversités, avec cette ouverture d'esprit et du cœur qui est la caractéristique de l'enfance. Et donc, non, si on ne nous a pas sortis du monde pour nous préparer au monde, ce n'est pas un choc de rencontrer le monde. Ça vous va à peu près comme réponse? Il y avait une dernière question.
Bonsoir.
Alors, je dis que c'est une dernière question. On me dit de préciser que c'est une dernière question, une question d'horaire.
Bon. Ouf. Avant mon questionnement, je voulais juste réaborder quelque chose que vous avez dit. J'aime beaucoup. Moi, je travaille dans la toute petite enfance, dans le champ de la toute petite enfance. Et ça me fait écho à Pickler Loxy, d'ailleurs, qui malheureusement cette année n'a pas de stand, mais qui en aura bien l'année prochaine, sur le bébé est une personne. Et je pense vraiment, effectivement, que le monde changera lorsque on verra les bébés, les enfants comme des personnes. Voilà, ça c'est dit. Et mon questionnement, c'est un oui-mais. je voulais reparler de la moissonneuse. Et notamment, le deuxième jour, lorsque Antonin est parti avec le moissonneur, voilà, je transpose et moi, j'aurais un manque de confiance au monde qui nous entoure. Et me viendrait forcément à l'esprit une peur qu'il arrive quelque chose à mon enfant, qu'il tombe sur une mauvaise personne. Et je pense que j'aurais effectivement dit non pour que mon enfant parte tout seul avec un illustre inconnu. Donc voilà, aborder la sécurité affective et physique malgré tout que je me sens devoir avoir auprès de mes enfants.
Alors, premier élément de réponse, j'allais pas rater la journée sur la moissonneuse. Donc j'ai été toléré en tant que deuxième passager dans la moissonneuse. Ça m'a permis de très bien voir ce qui se passait entre eux. Mais je vais vous dire une chose, j'avais aucun doute à ce sujet. Parce que quand l'enfant, dans cette véracité-là, va à la rencontre des autres et va les chercher au cœur et fait naître un nouveau réseau social que nous n'imaginons pas, là, il y a un moment où il n'y a pas de place pour ce genre de doute.
Oui, mais il me vient toujours, quand on entend des horreurs, on oui. entend aussi souvent, on n'aurait jamais cru, on n'aurait jamais pensé. Et je m'attendais un peu à cette réponse, me dire qu'effectivement, peut-être qu'on peut sentir cette certitude. Et malgré tout, je pense que j'aurais tout de même une peur de tomber sur quelqu'un de...
Mais on a tous nos peurs, et c'est par nos peurs que nous définissons notre environnement et celui de nos enfants. Ne l'oublions pas. Non, parce qu'on ne peut pas se débarrasser d'une peur. Tu es au bord du précipice, on te dit « n'aie pas peur, c'est pas bon pour toi ». Ben oui, mais c'est bon toi. Et donc nous définissons ça. Et donc vous auriez trouvé une autre solution. Vous auriez fait comme moi, vous l'auriez accompagné. Un jour, trois jours, dix jours, au bout d'un certain temps, vous auriez eu confiance. Ou pas. Disons que si dans 999 pour 1000 des cas, on ne s'est pas trompé sur ce genre d'instinct, j'ai pas envie pour 1 pour 1000 de renoncer à certaines de ces confiances et à certaines de ces rencontres qui sont possibles. Je ne partage pas votre crainte, mais je comprends tout à fait que vous l'ayez, et je ne suis pas en train de dire, tant pis pour vous, vous ne pourrez pas vivre l'écologie de l'enfance. Parce que comme ce n'est pas une méthode, et comme il ne s'agit pas d'appliquer ce que moi je vis pour être dans cette attitude, c'est vous qui allez répondre à cette question, et surtout pas moi. Et si j'avais une réponse à cette question, encore une fois, mais prenez la fuite. Et si j'essaie de vous inviter à passer par-dessus une conviction, une peur, etc., pareil. Prenez la fuite. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est nous qui définissons ça. Et c'est nous qui définissons le monde de nos enfants. Laissons-leur quand même une chance de fréquenter aussi d'autres personnes qui vont les accompagner et qui, elles, n'ont pas peur des mêmes choses que vous, comme je le disais tout à l'heure. Et n'oublions jamais à quel point nous sommes des exemples aux yeux de nos enfants, et ça pourrait être un mot de la fin. Parce que là aussi, vous êtes un exemple. Et ne l'oublions pas, mais tant mieux, mais faisons-le en toute conscience. Et n'oublions pas que si nous sommes des exemples aux yeux de nos enfants, il y a un endroit où ça devrait nous interpeller. Parce qu'on a envie d'avoir des enfants qui, un jour, seront des adultes heureux, confiants, enthousiastes. Si on veut que nos enfants, un jour, adultes, soient heureux, c'est tellement naïf que j'ose même pas le dire. Mais il faut leur montrer aujourd'hui ce que c'est que des adultes heureux. Parce qu'en gros, on vit devant eux la chose suivante. Je me casse le du matin au soir, je n'ai pas de vie, je sacrifie tout pour que tu aies une vie meilleure. Alors un jour, votre enfant, il aura votre âge. Et il va dire, donc, qu'est-ce que faisaient mes personnes de référence primaire quand elles avaient mon âge? Ah, elles se sacrifiaient pour que leurs enfants soient plus heureux. C'est imparable. C'est tellement naïf qu'on n'ose pas le dire, mais je tiens à le répéter. N'oublions pas notre rôle d'exemple pour tous les enfants de ce monde. Ce que nous vivons sous leurs yeux, c'est leur avenir. Si on veut des enfants qui sont à un jour des adultes heureux, il n'y a qu'une solution, c'est de vivre sous leurs yeux ce que c'est qu'un adulte heureux. L'enthousiasme, ça ne se provoque pas, ce n'est pas un bouton, je ne peux pas te secouer et te dire « Enthousiasme-toi, c'est bon pour toi !» Non, ce n'est qu'une chose, c'est contagieux. Et je tiens à le répéter, il n'y aura pas de paix sur terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance. Au revoir.